Bonjour à tous. Alors ce matin, pour ce temps de prédication, j'aimerais partir d'un texte de l'Évangile, une confrontation de Jésus avec des pharisiens qui aimaient bien le titiller et essayer de le prendre au piège. Donc dans Matthieu au chapitre 19, à partir du verset 3. Voici ce qui est écrit. « Des pharisiens vinrent le mettre à l'épreuve en lui demandant « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes, et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ils lui demandèrent, alors, pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme quand on la répudie? Il leur dit, c'est à cause de votre obstination que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle, et en épouse une autre, commet adultère. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par le fait des gens, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Que celui qui peut comprendre, comprenne. On va essayer. Jésus, dans l'Évangile, parle très peu de mariage. Ce n'est pas un sujet qu'il aborde. Il l'aborde ici, et puis ça doit être à peu près tout. Il y a un résumé de cet enseignement aussi dans le Sermon sur la montagne. On le voit participer à un mariage, mais voilà, il n'est pas venu pour enseigner sur le mariage. Et je crois même qu'on peut dire qu'il n'a pas établi l'Église pour célébrer des mariages. Il a établi l'Église pour faire des disciples. Mais le but de l'Église, ce n'est pas de célébrer des mariages. Donc, Jésus parle du mariage dans ce texte. En fait, il parle plutôt du divorce. Il attaque le mariage par le biais du divorce et du célibat. Et donc cette semaine, nous parlerons du mariage et la semaine prochaine, du célibat. Voici donc un texte, une controverse. Jésus est attaqué par les pharisiens qui cherchent à le piéger. On retrouve ce genre de scène dans les évangiles, hein. Et il cherche à piéger sur la question du divorce. Et en fait, si on veut connaître l'enseignement de Jésus sur le divorce, il peut être résumé assez simplement. Il n'est pas permis de divorcer. Voilà. C'est clair. Dans ce texte, on remarque une exception possible, hein, en cas d'inconduite sexuelle. Alors, vous avez peut-être dans vos Bibles, en cas d'infidélité, le mot grec employé par Jésus, qui est traduit ici par « inconduite sexuelle », vise toutes les pratiques sexuelles condamnées par la loi, la prostitution, l'homosexualité, la bestialité, etc., toutes les pratiques dont l'adultère. Jésus laisse cette exception possible pour le divorce, mais dans le texte parallèle dans l'évangile de Marc, Jésus ne laisse même pas d'exception possible. Pas de divorce. On pourrait s'arrêter là avec ce texte, de dire que, d'après l'Évangile, le divorce est interdit. Je crois crois que si on s'arrêtait là, on passerait à côté de quelque chose. Ce texte est plus riche que cela. Si vous remarquez bien, Jésus ne répond pas directement à la question qui lui est posée. Et j'adore quand Jésus fait ça. Et il le fait souvent. On vient lui poser une question et ce n'est pas la question à laquelle il répond à une autre. Ça nous invite à deux choses. Essayer de voir la question à laquelle Jésus répond et puis essayer de voir pourquoi la question qui était posée n'était pas la bonne. Ici, si on regarde la question qui est posée, on voit que les pharisiens demandent « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Et elle est là, la question. La question, c'est « Est-ce qu'il est possible de le faire pour n'importe quel motif ?» Pour eux, c'est acquis. Le divorce, la répudiation. À l'époque, c'était plutôt le mari qui répudiait, qui renvoyait sa femme. Aujourd'hui, c'est un divorce, on peut dire, par consentement mutuel, ça existe. Pour eux, c'est acquis. La question, c'est pour quelle raison est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire comme l'expliquait une école de pensée de l'époque, que pour une école assez stricte, une vision assez stricte des choses, on ne peut divorcer qu'en cas d'infidélité, quelque chose de très très grave? Ou est-ce que, comme d'autres écoles plus ouvertes, on peut divorcer pour toutes sortes de raisons? On raconte que certains disaient qu'on pouvait divorcer pour un œuf mal cuit. Est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quelle raison? Parce que j'ai trouvé quelqu'un de mieux, parce que je ne l'aime plus, parce qu'on ne se supporte plus. Pour quel motif peut-on divorcer? Ou plutôt, Jésus, à quelle école est-ce que tu te rallies? Dans quelle case est-ce qu'on va pouvoir te placer? Cette question qui est posée à Jésus, c'est une question qu'on nous pose aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de fois est-ce que j'ai entendu les protestants, vous êtes bien parce que chez vous on peut divorcer. Vous êtes bien parce que les prêtres peuvent se marier. Vous êtes bien parce que les divorcés peuvent se remarier. Enfin, voilà. Pour ce qui est autorisé. Aujourd'hui, on aime bien savoir si le divorce est autorisé chez nous, si on peut remarier les divorcés, si on marie les homosexuels, si on est pour ou contre le concubinage. Un peu comme dans un catalogue. Est-ce que si je viens chez vous, j'aurai le droit de faire ceci ou cela? Et si Jésus ne répond pas à cette question, c'est parce que c'est le genre de question qu'il déteste. Jésus l'a dit, nous l'avons médité ce matin lors de la réunion de prière, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Choisir Jésus, ce n'est pas avoir des droits et chercher ensuite à tirer de ses droits la vie la plus confortable possible. Choisir Jésus, c'est le suivre dans la direction qu'il montre. Et avec le mariage, la question n'est pas « Quelle sera ma porte de sortie si j'y rentre ?» La question, c'est de comprendre ce que ça veut dire une seule chair. Voilà la mauvaise question des pharisiens. Et j'aime bien y associer également la mauvaise remarque des disciples qui, j'imagine, après que ce soit calmé, quand ils se sont retrouvés à part avec Jésus, lui ont dit « Du coup, si c'est comme ça, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il n'est pas avantageux de se marier. » Alors, la remarque, telle qu'ils la disent, elle est choquante aujourd'hui, puisqu'il parle d'un avantage de l'homme par rapport à la femme. Est-ce que le mariage est un lieu dans lequel l'homme peut avoir un bénéfice, tirer bénéfice de sa femme et se dire qu'elle n'a rien. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec une optique plus égalitaire, on peut arriver dans le mariage avec les mêmes préoccupations. Est-ce que je vais en tirer un avantage ? Lorsque je me marie, est-ce que je vais pouvoir en tirer un avantage ? Est-ce que ça va contribuer à mon épanouissement ? Est-ce que je vais être heureux ? Et si ça ne marche pas, est-ce que je vais pouvoir en sortir ? Je pense que par cette remarque, les disciples donnent la teinte de la façon dont est considéré le mariage à l'époque. En tout cas, je retrouve la teinte de comment il est considéré aujourd'hui. Le mariage comme un accomplissement, comme un lieu où je m'épanouis, moi. Et Jésus, par sa réponse, vient dire « on ne se marie pas pour soi ». On se marie pour former avec l'autre une seule chair, on se marie pour un projet commun, on se marie pour construire, on se marie pour se donner et non pas pour prendre. Et donc dans ce cas-là, si je me donne, je ne me reprends pas, et si je forme une seule chair, je ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je crois qu'il est important de voir à qui ce message s'adresse. Je suis extrêmement reconnaissant de la méditation à travers laquelle Anne-Marie nous a conduit ce matin, cette méditation sur l'amour de Dieu qui accueille et qui accueille largement. Je suis content parce que on peut ressentir peut-être une contradiction face à ce que Jésus demande ici. Et qui est tellement exigeant. Mais comme je le disais, il est important de voir à qui Jésus s'adresse. Il s'adresse à des gens qui maîtrisent la loi, qui veulent la maîtriser pour en faire de l'optimisation. Ils veulent connaître leurs possibilités pour en tirer le maximum. Mais la foi, ce n'est pas ça. Suivre Jésus, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un ensemble d'interdictions au milieu desquelles, si je fais attention de ne pas dépasser du trait, c'est bon, je peux faire ce que je veux. Suivre Jésus, c'est suivre la direction qu'il monte et la loi qui est là. Les interdictions sont là, sont comme des panneaux qui pointent vers là où il faut aller, et non pas qui disent « tant que tu ne passes pas cette ligne, tout est bon, tout va bien ». Et là, il y a un recadrage de ces personnes qui souhaitent tirer le maximum pour être le mieux possible. C'est à eux que Jésus s'adresse, et ce n'est pas à des personnes qui souffrent dans leur mariage. Parce que il y a des gens qui galèrent. Ils galèrent dans leur mariage parce que l'autre, celui avec qui ils sont, n'est pas dans la réciprocité et ils sont les seuls à construire. Ceux qui galèrent parce que vivre, c'est difficile quand on est deux personnes différentes, c'est difficile de s'accorder. Ils ne s'adressent pas à des gens qui ont fait des erreurs, qui, dans leur histoire, ont abîmé leur mariage, qui ont peut-être été amenés à divorcer. Mais ils ne s'adressent pas à des gens qui souhaitent savoir, là où j'en suis, comment je fais maintenant. Parce que je crois que l'évangile, les 13 de Jésus, n'ont pas un portrait monolithique. Il y a Jésus qui vient recadrer ceux qui pensent tout savoir, ceux qui pensent être justes, qui pense être dans les clous. Et puis il y a Jésus qui accueille avec compassion ceux qui souffrent. Nous l'avons vu avec le Fils prodigue, Jésus qui accueille ceux qui reviennent. Celui qui soutient ceux qui sont fatigués et chargés, celui qui pleure pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Celui qui donne une nouvelle chance à ceux qui ont péché. Celui qui restaure ceux qui ont chuté. Et je pense que c'est important, quand on regarde ce texte, de rappeler que Jésus se tient à côté de ceux qui galèrent dans leur mariage et qu'il veut leur montrer un chemin pour construire ou pour reconstruire après leurs erreurs. Deuxième chose que je vois dans ce texte, c'est que Jésus ne fait pas que rejeter, interdire le divorce, il parle aussi du mariage. Et il en parle en renvoyant à la Genèse, au commencement, à la création. Et Jésus nous invite à relire ces textes. Le mariage, l'union entre un homme et une femme, fait partie de la création. Il a voulu et il a été voulu par Dieu dès le commencement. Jésus cite Genèse 1, 27, où il est écrit que Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Homme et femme. Il a créé l'homme et la femme, différents, pour qu'ensemble, ils se complètent. Et cette idée qui est présente dans le récit de la création de Genèse 1 est développée dans le récit de Genèse 2, qui nous montre un homme seul. Et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul, livré à lui-même. Il a besoin de quelqu'un qui soit son vis-à-vis. Alors, nous dit le récit, Dieu fait défiler devant l'homme toute la création, tous les animaux, tout ce qui existe, afin que l'homme puisse trouver un vis-à-vis. Et rien. L'homme ne trouve rien. C'est pour ça que Dieu crée la femme. Pour que l'homme puisse prendre pleinement conscience qu'il n'y a que la femme qui peut remplir pour lui ce rôle de vis-à-vis. À la fois semblable, de la même espèce humaine, et pourtant si différente. Et ce texte nous explique qu'on ne se marie pas pour soi, pour gagner quelque chose pour nous-mêmes. On se marie, j'ai l'impression quand je lis ces textes de la Genèse qu'on s'y marie parce qu'on y est poussé. On y est poussé, pas par une obligation, le célibat est possible, Jésus le dit, et nous le verrons la semaine prochaine, mais on y est poussé par un mouvement naturel, parce qu'on a besoin d'un vis-à-vis. Et Genèse nous le dit bien, un vis-à-vis, non pas quelqu'un pour nous servir. Citer le texte de la Genèse, ce n'est pas anodin. La Genèse, c'est avant toute alliance entre Dieu et son peuple, avant que son peuple existe. C'est avant l'Église, avant Israël, avant même Abraham. Si je dis ça, c'est parce que le mariage ne concerne pas le croyant. Le mariage concerne l'homme. Et je crois que par cela, Dieu nous dit qu'il n'y a pas de différence de qualité d'un mariage, entre un mariage entre deux chrétiens, ou deux musulmans, ou deux hindous, ou deux athées. Il n'y a qu'un mariage, celui entre un homme et une femme. Quand un homme et une femme se choisissent et entrent dans une relation ensemble, alors ils sont mariés devant Dieu. Parce que Dieu ne s'arrête pas sur le parvis de la mairie en France, même si le maire aimerait rester laïque et mettre et laisser Dieu dehors. Dieu rentre, Dieu est présent. Dieu délègue l'autorité de reconnaître les couples aux autorités civiles. Et il reconnaît ces couples. C'est ce que Jésus dit dans le texte que nous avons lu. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Lorsque l'officier d'état civil prononce le mariage, c'est Dieu qui a uni ces personnes. Le mariage est une belle chose. Comment se fait-il que l'on aborde par des questions mesquines de divorce ou d'avantages qu'on peut tirer de l'autre ? La réponse que nous donne la Bible, la réponse à cette question comme aux autres, c'est le péché. Le péché qui est entré dans le monde et qui dérègle les relations entre les hommes. Mais Jésus a vaincu le péché, il nous libère, et il nous montre le chemin. Et il le fait aussi par rapport au mariage, en citant, en rappelant ce texte de Genèse 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Jésus rappelle ce que la Genèse a déjà dit. Le mariage, c'est trois mouvements. Tout d'abord, quitter. Quitter son père et sa mère, c'est pas seulement partir physiquement, quitter la maison, quitter sa chambre de jeune, mais c'est accepter de quitter de façon plus large, de sortir de la dépendance envers ses parents, dépendance financière, dépendance aussi sur la façon de faire. C'est prendre ses distances avec le système de valeurs qui nous a été donné. Et c'est indispensable pour pouvoir s'attacher à quelqu'un, pour construire à deux. C'est impossible de laisser une place à l'autre sans faire l'inventaire de qui on est. Quitter pour s'attacher. S'attacher, c'est faire le choix d'un autre et entrer dans une alliance. On dit pour le meilleur et pour le pire, on pourrait dire pour la vie, quoi qu'elle nous réserve. Entrer dans une alliance, ce n'est pas se mettre ensemble en catimini, c'est se le dire face à face, le poser devant des témoins pour que tout le monde puisse en tenir compte. Et pour aussi que ceux qui sont présents puissent nous le rappeler quand ça devient difficile. Quitter, s'attacher et devenir, devenir une seule chair. Alors, devenir une seule chair parle de la sexualité, mais pas seulement. Devenir une seule chair, c'est construire une seule entité, une nouvelle entité, avec des projets, avec un foyer pour accueillir des enfants, si Dieu nous en accorde, mais surtout un foyer où nous pouvons agir ensemble, bénir autour de nous, être fécond. Une seule chair avec la sexualité comme ciment fortifiant cette union. Quitter, s'attacher, devenir est dans cet ordre. On ne devient pas une seule chair, on ne se donne qu'avec celui à qui on s'est attaché. Et on s'attache, on entre dans une alliance qu'après avoir quitté notre ancien système de solidarité. Faire les choses dans l'ordre montré par Dieu. C'est poser les fondations avant de monter les murs, avant même d'attaquer la pose du papier peint. Je crois que cet enseignement, avec ces trois mouvements, est très riche. Quitter, s'attacher, devenir. Il faut du temps pour le comprendre. C'est pour ça que nous proposons aux couples que nous accompagnons une préparation au mariage pour réfléchir à ces mouvements. Et même quand nous nous voyons pendant plusieurs semaines pour réfléchir à ça, il y a encore beaucoup à apprendre et à découvrir. Découvrir avant d'entrer dans le défi que représente l'aventure du mariage. Mais découvrir également comment Dieu nous équipe pour relever ce défi et pour y participer. Voilà donc ce qu'on peut tirer de ce texte concernant le mariage. Au-delà du fait que le divorce est interdit, Jésus encourage ses disciples qui prennent la voie du mariage. Ce n'est pas la seule voie possible. Nous verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine que le célibat est aussi une voie valable et respectable, qu'il soit choisi ou qu'il soit subi. En ce qui concerne le mariage, retenons que ce n'est pas un moyen de s'épanouir. Ce n'est pas un truc pour me faire du bien. Quelque chose que je pourrais arrêter quand ça ne m'apporte plus. Le mariage, c'est un lieu où l'on se donne. Le mariage, c'est une alliance où on construit à deux, après avoir quitté et s'être attaché l'un à l'autre, un lieu où on devient une seule chair. Le mariage, c'est une aventure dans laquelle Jésus nous accompagne par son esprit et qu'il veut vivre avec nous pour que ce soit un lieu de témoignage et pour sa gloire. Amen.